Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Maria Novak, une enfance en Pologne.
De l'ancienne Varsovie, que restera-t-il ? Rien. Il n'en restera rien. Nous ne possédons plus que ces images du passé. La vie s'écoulait là, dans la tendresse des pierres d'autrefois, sur les pavés inégaux de la bonne ville de Poniatowski. Une sirène, emblème de fierté, figure aux armes de la ville. Le bonheur des quatre saisons pouvait aussi lui servir de blason. En ce temps-là, l'hiver n'avait pour les enfants emmitouflés que des douceurs d'hermine. Les petits collégiens des jardins de Noël n'imaginaient d'autres bombardements que ceux de leurs boules de joie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Maria Novak n'a pas passé son enfance à Varsovie, qui ruinait et restait tout de même la capitale de la Pologne, mais à Lvov, aujourd'hui en Ukraine, parce que la Pologne, à la fin de la guerre, a ripé, contrainte et forcée, vers l'ouest. Maria Novak, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît comme la banquière qui ne prête qu'aux pauvres. Dans les dernières années du XXe siècle, vos initiatives ont été très mises en valeur. À l'imitation du prix Nobel Younous, vous aviez lancé le microcrédit en Afrique, en France aussi. Tenez, juste une histoire qui nous ramène à une image d'enfant. On va parler que de l'enfance aujourd'hui, que vous avez fixé à Ouagadougou quand vous étiez en mission pour l'Agence française de développement. Vous avez vu un enfant qui cirait des chaussures dans la rue.
Oui, j'ai vu cet enfant et puis comme j'avais du temps à perdre, je me suis lancé dans une discussion avec lui. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit je cire les chaussures et qu'est-ce que tu gagnes? Il m'a donné une somme en francs CFA, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais c'était peut-être 50 centimes. Et qu'est-ce que tu fais avec cette somme? Je donne la moitié à mon maître et je garde la moitié pour manger.
Le maître, c'est celui qui était propriétaire,
oui,
de la brosse.
Absolument.
Le microcrédit, ça consiste à aider ceux qui en ont besoin à acheter, oui, la brosse et à se libérer. C'est votre enfance qui vous a conduite d'ailleurs toute votre vie. Et maintenant, vous revenez sur elle, racontant des choses que vous avez peut-être longtemps laissées secrètes dans un livre qui vient de paraître chez Libri Nova, Pour notre liberté et la vôtre, le sous-titre, on va l'expliciter tout au long de cette émission, c'est « Comment la Pologne a été abandonnée par ses alliés ». On entendait le récit d'une enfance à Varsovie, vous, à Lvov,
oui,
parent aisé, lancé dans la société, votre père était même au conseil municipal, vous viviez dans une belle maison.
Pardon, je n'ai pas entendu.
Vous viviez dans une belle maison.
Oui, dans une très belle maison, dans une belle, sur une belle colline, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de roses. Beaucoup d'arbres et tout un verger. Et surtout, c'était véritablement une famille très, très heureuse. Nous étions quatre enfants, deux qui étaient beaucoup plus âgés, 12 ans et 10 ans de plus que mon frère, mon petit frère et moi. Et nous pensions que la vie, c'était ça, cette espèce de bonheur. Et quelque part, c'était assez heureux, parce que je crois que si je n'avais pas vécu ces années de bonheur, j'aurais pas tenu après tout ce qu'on a vécu d'horrible.
À la saison des abricots, 1939, oui, vous apprêtez aux confitures. À Paris, le commissaire général à l'information qui a le contrôle de la radio française, c'est l'écrivain Jean Giraudoux qui, à sa manière, qui se veut équilibré, pèse le pour et le contre. Est-ce qu'il y aura la guerre incessamment?
Qu'est-ce qui peut provoquer la guerre? Le chancelier du Reich tend à détruire le front franco-anglo-polonais. Son ministre des Affaires étrangères pousse à la guerre et l'on prévoit une augmentation de la tension à la fin d'août et au début de septembre. L'alarme ne peut être redoutable que si les Allemands sont persuadés que l'affaire peut être réglée par une localisation du conflit avec la Pologne, séparée de la France et de l'Angleterre. Aussi, la paix dépend-elle, dans une mesure considérable, de l'attitude des trois alliés. Or, la France est prête. Le niveau du potentiel militaire de l'Angleterre devient supérieur à celui de l'Allemagne. La Pologne est calme, forte, unie. On peut donc supposer que dans les prochaines journées et dans les prochaines semaines, l'Allemagne hésitera jusqu'à la dernière seconde à se décider à la guerre. Si le conflit n'a pas encore éclaté, c'est grâce à l'attitude de la Pologne qui reste inébranlable malgré tant de provocations.
Il se trompe, Jean Giraudoux. Il ne sait pas que se trame un pacte germano-soviétique dont l'annonce va éclater le 23 août et qui va prendre en tenaille votre pays, Maria Novak. Alors ce pacte germano-soviétique dont vous avez vécu enfant les conséquences, comment le regardez-vous aujourd'hui, lui et les clauses secrètes qui l'accompagnaient ?
Oui, les pactes, il y en a eu beaucoup, n'ont pas toujours été respectés. Là, effectivement, ce qui était prévu en secret, c'est une sorte de partage de la Pologne, qui était quelque chose d'ailleurs de bien connu, puisque tout le 19e siècle, le pays avait été partagé entre les trois voisins. Et, mais enfin, on ne le connaissait pas. Et je crois que la Pologne s'est peu préparée à la guerre, notamment sous l'influence de ses alliés, qui lui demandaient de retarder toute forme de mobilisation.
Et qui avaient signé avec elle des accords qui garantissaient leur intervention. Le 1er septembre, les Allemands attaquent.
Je n'avais pas d'engagement particulier, j'étais en vacances. Ma mère, elle, se levait tôt parce qu'elle travaillait. Moi, je dormais, j'étais dans mon lit. Ma mère me dit : écoute, on entend des bruits terribles. Ces bruits qui avaient troublé ma mère, eh bien c'était le bombardement de l'aéroport de Varsovie par la Luftwaffe le 1er septembre à l'aube. Et pas seulement l'aéroport, mais aussi les quartiers environnants.
À quoi emporter ?
Tu emportes toujours trop de choses. Fais tes bagages, chérie, va emballer tes affaires.
Où on va ?
On quitte Varsovie.
On quitte Varsovie pour où ?
Tu n'as pas entendu.
Entendu quoi ?
C'est dans le journal, t'as pas vu ?
Moi, je ne vais nulle part.
Alors ? Moi aussi, je vais nulle part. Ne dites pas de bêtises. Faut qu'on reste ensemble.
Non, non, écoutez, s'il faut mourir, alors je veux mourir à la maison, je ne m'en irai pas.
Dieu nous en préserve.
Chut, taisez-vous, ça a l'air important, écoutez.
À l'instant, dans la BBC à Londres, que le gouvernement britannique, n'ayant pas reçu de réponse à l'ultimatum adressé par le gouvernement allemand, a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie.
Oh, quelle bonne nouvelle, c'est merveilleux.
Satan, d'ici les quelques prochaines heures, la France fasse une déclaration similaire. La Pologne n'est plus seule.
L'Angleterre et la France déclarent la guerre et les personnages du pianiste, le film de Polanski, qui s'apprêtait à l'exode, restent, ils sont tranquillisés. Est-ce que les Français et les Anglais, vous parlez au vu de votre expérience et de vos lectures récentes, Maria Novak, ont respecté le pacte, les promesses d'intervention, et dans la première quinzaine de septembre, et après le 17 septembre, quand les Soviétiques, à leur tour, interviennent à l'Est et envahissent eux aussi la Pologne.
Non, ils ne les ont pas respectés. Et ce que je trouve terrible, c'est que même maintenant, on ne respecte pas la vérité. Toute cette histoire de la Pologne à une certaine... on l'exclut. On l'exclut parce que à un moment, on ne voulait pas, vis-à-vis de la Russie soviétique, montrer que pendant longtemps, les Polonais se sont battus avec les Alliés. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste une part d'histoire qui n'est pas la vraie.
Vous voulez dire qu'il y a une ignorance cultivée dans l'opinion française ?
Oui. Cultivée, je ne sais pas, parce que il y a beaucoup d'ignorance. Mais à partir du moment où il y a beaucoup d'ignorance, effectivement, c'est difficile de parler vérité.
Mais en clair, les premiers jours, les Français et leurs alliés anglais auraient pu attaquer sur leur front pour alléger la pression allemande sur la Pologne.
Bien sûr qu'ils auraient pu, d'autant plus qu'il y avait très peu de forces allemandes sur le front ouest et que les Allemands eux-mêmes se sont étonnés de ce retrait des Alliés.
Les Polonais se sont bien battus, tout le monde est d'accord là-dessus. Fin septembre, néanmoins, Varsovie capitule. Les dernières batailles aériennes, c'est au début du mois d'octobre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous à Lvov ? Lvov va d'abord être occupé par les Soviétiques.
Oui. Oui. Si vous voulez, mais mon souvenir personnel oui. est quand même un peu flou, parce que là j'avais carrément 4 ans, et ce qu'on me demandait surtout, c'est de ne pas sortir du jardin, de ne pas me montrer où que ce soit, de ne pas parler à qui que ce soit.
Tout de même, vous avez des images, vous racontez dans votre livre oui. cette fusillade sur la colline en face de la maison.
Oui, alors il y avait effectivement tant du côté soviétiques que du côté des Allemands qui sont venus après.
Donc 41, c'est l'opération Barbarossa, la rupture oui. du pacte germano-soviétique et Hitler qui attaque l'Union soviétique et Lvov devient allemand.
Lvov devient allemand après avoir été autrichien dans son histoire. Les Allemands continue tout simplement à exécuter, à éradiquer tout ce qui peut être tous ceux qui appartiennent aux élites, qui ont une certaine influence et qui présentent le danger de pouvoir intervenir contre eux.
Votre père, à cette époque, s'évapore dans la résistance. La résistance commandée de loin par le gouvernement polonais en exil à Londres et puis organisée par l'AK sur place.
Oui, mon père... se disparaît parce que il est recherché, il est adjoint au maire de Lvov, il est intervient beaucoup dans la vie sociale politique de la ville et il est sur la liste de ceux qui doivent être déportés aussi bien par les Russes que par les Allemands. Ma mère, je me souviens, considérant que on avait également le risque d'être emmené au goulag, notamment, m'a suspendu un petit scapulaire avec mon nom, avec l'image de la Vierge et une petite monnaie d'or, considérant que si on partait, il fallait quand même que j'aie au moins... C'est cette chose-là.
C'est drôle le nombre de cousins qui passent dans la maison à cette époque.
Alors, les cousins, c'est tous les gens qui font de la résistance, mais que on ne veut pas me présenter comme tel, parce que c'est difficile de croire, d'abord de l'expliquer à un enfant, mais ensuite à compter sur le silence parfait. Donc, on les appelle cousins, on joue avec eux, mais on n'a quand même pas le droit d'en parler ni de où que ce soit.
Et aussi, ça va port.
Oui.
Mars 43, la maison est assiégée et détruite.
Voilà. Suite à une action des cousins dans la proximité, les Allemands remontent jusqu'à la maison et l'attaquent avec des armes diverses, avec des mitrailleuses. Ils mettent le feu Et on se retrouve au petit matin avec des morts qui sont traînés dehors, dans la neige, avec ma mère, mon frère, quelques autres emmenés par les Allemands. Et il n'y a plus que mon petit frère, moi et ma grand-mère qui restons là, au milieu de ces morts.
Vous publiez ces souvenirs assortis de beaucoup de réflexions historiques, Maria Novak. Ces souvenirs, vous les avez scellés aussi à un bon moment. Le récit de la fin de votre maison, il vous revenait quand vous étiez en mission en Afrique, quand vous entendiez des récits terribles qui faisaient revenir dans votre mémoire cette histoire propre.
Oui, c'est une histoire, si vous voulez, en fait, que vous pouvez pas abandonner. C'est quelque chose qui vous persécute pendant toute la vie. Et la seule façon que j'ai trouvée pour la maîtriser, c'est de me lancer dans des actions à vocation sociale, disons, puisque j'ai fait beaucoup de développement et après
le microcrédit.
Le microcrédit et le développement du travail indépendant. Donc j'ai aidé un certain nombre de gens à s'en sortir. Mais quand je pense par rapport à d'autres gens en Pologne, ce que représentait cette attaque et c'était quelque chose de banal.
Au moins, n'avez-vous pas été déporté comme l'ont été peut-être 200 000 soldats, 1 million de civils. Alors, quand le retournement a eu lieu avec l'opération Barbarossa, Staline a repris langue avec le gouvernement polonais en exil, soucieux d'obtenir de lui qu'il constitue avec les prisonniers polonais envoyé au goulag une armée de secours qu'il confie au général Anders, que le gouvernement polonais confie au général Anders. L'un des adjoints d'Anders, c'est un de vos futurs amis, Joseph Chapski. Votre livre lui est dédicacé. Et il racontait ce moment incroyable en 1971 dans les archives du XXe siècle.
Comment ces 200 000 soldats et ce million de civils ont-ils reflué vers les camps d'accueil?
Dans des trains, à pied, dans des conditions vraiment terribles. Enfin, ils venaient tous en haillons, sans bottes, avec des torchons qui entouraient de leurs jambes. Et c'est de ces gens-là qu'il fallait faire une armée. Vraiment, Anders se multipliait. Il avait monté quand même cette chose avec cette quantité d'officiers qu'il avait très peu parce que les autres avaient disparu, et il a mené ce travail à bien, en voyant au bout du compte que en faire des vrais soldats sans armes, sans chars, sans aviation, qui étaient toutes promises au commencement, n'est-ce pas, était une chose impossible. Mais encore, pendant les premières semaines de notre organisation, on ne croyait absolument pas que nous avons des milliers d'officiers assassinés.
La voix de Chapski qui a eu beaucoup d'importance pour vous et que vous reconnaissez. Oui, et Chapski demande, mais pour faire cette armée Anders, il nous faudrait récupérer les officiers polonais qui ont combattu en 1939. Où sont-ils?
Oui, personne n'a voulu le dire à l'époque. On disait ils sont relâchés, ils sont repartis chez eux. En fait, ils ont tous été exécutés à Katyn et dans d'autres lieux.
Ça, Goebbels le dit en avril 1943. Ils sont exécutés, oui. Ils sont à Katyn, on a retrouvé les charniers.
Oui, tout à fait. Et mais là encore, les Russes ne le reconnaissent pas. Ils disent, mais c'est pas nous, c'est les Allemands. si vous voulez, tout le monde sait que c'est pas vrai, parce que on peut évaluer sur les corps, les squelettes, la date à peu près de leur mort. Et c'était au moment où les Allemands étaient là, et où les Russes pouvaient pas le faire. Mais pour ne pas indisposer Staline, les Anglais, par exemple, acceptent cette version. Et après la guerre, lorsqu'on fait jugement des Allemands et de Hitler et de ses collaborateurs, les Soviétiques demandent qu'on Katyn de façon extrêmement
qu'on charge les nazis de Katyn.
Oui. Bon.
Et on imagine quel était l'embarras du gouvernement polonais en exil à Londres. On s'est d'ailleurs interrogé sur les circonstances et beaucoup d'hypothèses ont circulé à ce sujet de la mort de son chef dans un accident d'avion sur un avion qui était un Liberator. Le général Sikorsky est mort en 1943 dans les conditions qui restent à éclaircir. Le temps avance. Vous êtes où, vous, fin 43, début 1944, Maria Novak?
Fin 43, je suis sans maison et sans parents.
Avec juste votre frère ou votre sœur?
Non, on est même séparés parce que il y a des amis, ou de la famille qui nous gardent. Un homme de l'ACA qui connaît bien
l'armée
famille,
de l'intérieur,
m'amène à Cracovie où je suis d'abord chez une grande tante peinte qui est absolument formidable, et puis ensuite chez des gens avec qui j'ai plus ou moins de contact. Enfin, je passe comme ça de main en main, si je puis dire.
Mais à 9 ans, 10 ans, là, vous aviez envie de faire de la résistance, comme tout le pays?
Bien sûr, bien sûr.
Et vous l'avez fait? Jusqu'où?
Écoutez, je l'ai fait à ma façon. C'est-à-dire, à un moment, j'étais par exemple chez des gens qui habitaient la campagne et j'accompagnais le fils de la maison dans ses voyages. Il transportait toujours un tas de foin ou de céréales ou de je ne sais quoi. Et moi, j'étais censée donner une image paisible et joyeuse à ces transports dans lesquels il y avait en fait beaucoup d'armes. Donc, est-ce que c'est de la résistance? Je ne sais pas. Mais c'était le plus que j'ai fait. Le reste étant, par exemple, d'avoir été chargé par ceux chez qui j'habitais de vérifier constamment qu'il n'y avait aucun document compromettant qui puisse être saisi par la police.
Ben, on peut rappeler que vous n'aviez pas 10 ans. Vos cousines, 14 et 16 ans, c'était bien jeune aussi, mais elles faisaient votre admiration, sont mortes. Coincées dans les égouts pendant l'insurrection de Varsovie, que raconte ici Janus.
On s'est fait une petite soirée à laquelle on a invité des collègues des autres unités, comme des ambulanciers, des femmes, agents de liaison. Il y avait un jeune homme, Ziutek. Il a composé un chant connu sous le nom de Palachik Mikla Zitnia Vola. C'est ce soir-là que ce chant si populaire a été composé. Tous les Polonais le connaissent et le chantent encore aujourd'hui.
Chłopak chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. A gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej!
Czuwaj wiara i wytężaj słów, presuj młody duch, pracuj
Emblème de l'insurrection, je rappelle, août 44, insurrection contemporaine de celle de Paris, mais l'armée rouge, qui est en face de Varsovie, ne bouge pas. 30 000 résistants tués, c'est 30 000 opposants virtuels de moins.
Et 200 000 habitants en plus tués, c'est aussi...
moins de soucis.
Une bonne soucis, oui.
Alors, votre père, il est dans l'insurrection de Varsovie. Alors, votre père que vous n'avez pas vu depuis une éternité.
Mon père que je n'ai pas vu depuis le début de la guerre. Et là, effectivement, sous un faux nom, il est dans l'état-major de AK,
l'armée de l'intérieur.
Il est, comme tous les autres qui n'ont pas été tués, acheminé vers les camps allemands. Et se trouve ainsi à Bergen-Belsen, où il est libéré par les Anglais.
Votre mère, peu de temps après, après la fin de la guerre, réussit à vous inscrire, Dieu sait comment, avec votre frère, dans un convoi exceptionnel pour la Suisse, destiné à des enfants qu'il faut remettre en état.
Voilà, et qui sont répartis entre les familles, qui sont censés s'occuper d'elles pendant 3 mois. Moi, j'ai la mission de ne pas rentrer, mais plutôt essayer de trouver un chemin pour rejoindre mon père.
La mission, vous avez, je rappelle, 11 ans maintenant.
J'ai 11 ans, tout à fait.
Vous êtes le chef du duo.
Oui, c'est un côté parfois assez rigolo parce que au bout de 3 mois, on me dit tu peux pas rentrer puisque pour le moment tu n'arriveras pas à rejoindre ton père qui est toujours en Allemagne parce que c'était compliqué aussi. Et donc je vais à Berne plaider qu'on nous garde, mais sous des raisons qui sont plutôt des raisons de santé que des raisons d'ordre familial. Et comme ça, on arrive à rester un an en Suisse, et on la quitte par un train où nous devons changer à Bâle pour la Pologne. Nous ne prenons pas le changement.
Parce que vous avez une mission à remplir.
Parce que nous avons cette mission de rejoindre notre père à Paris, où il n'est pas pour le moment. Donc on arrive, et in fine, on passe notre temps, le jour, à faire la queue à la préfecture pour avoir un visa, et la nuit pour dormir dans un asile.
Un asile de vieillard.
Parce qu'il faut bien dormir.
Vous racontez tout cela dans ce livre, comment la Pologne a été abandonnée pour notre liberté et la vôtre. Vous racontez aussi comment votre famille s'est reconstituée, comment vous avez pu faire des études en France jusqu'à Sciences Po. Vous avez été souvent moqué par les jeunes Français alors que vous étiez chef de famille un peu du côté polonais. Juste un mot parce que ça a dû jouer un rôle déclencheur dans l'écriture du livre. Quand vous entendez parler du sort des mineurs isolés, quand vous avez entendu dire que un certain nombre de binationaux pourraient se voir retirer leur nationalité. Vous vous souvenez de la déclaration de François Hollande au congrès à Versailles. Un frisson, là, vous parcourt ?
Oui. Et quand j'entends parler des migrants, aussi, Je suis toujours migrante, immigrée dans l'âme. Et je trouve d'une grande absurdité cette espèce de peur et de d'esprit très négatif face au mouvement de population qui n'ont pas d'autre choix. Enfin, le choix, c'est où on coule dans la Méditerranée, où effectivement on trouve quelque part un endroit où on peut rester et être utile. J'en suis tout à fait convaincu.
C'est ça le chemin qui vous a mené à ce que vous appelez, Maria Novak, le bien commun. Merci à vous, votre livre chez Libri Nova. L'émission a été préparée par Franck Olivard, à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Pauline Laverdure.